séance de questions-réponses. Merci d'étendre vos téléphones et de vous présenter avant de poser vos questions. Je vous rappelle qu'on a le chef intérimaire du bureau de Goma avec nous dans notre studio à Goma. Il peut aussi répondre à vos questions. Une autre collègue de l'équipe ONU humanitaire, Yvon Edmondou, et il nous a rejoint. Il peut aussi répondre des questions humanitaires. Donc, on peut commencer maintenant, ici à droite. On va là. Le troisième.
Merci, M. Carl. Oui, Albert Omban, America TV. Nous avons eu un message de la MONUSCO pour la publication des rapports sur le Bureau conjoint des droits de l'homme. Et je ne sais pas si ce rapport est prévu pour aujourd'hui ou pour quelle date ou ce rapport a une date ultérieure. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde, la situation sécuritaire à Goma fait état de beaucoup de préoccupations de la population de Goma. Là, je m'adresse aux porte-parole militaires qui voient dans l'ultimatum que les Nations Unies et la force d'intervention a lancé pour les environs de Goma et Sake, que cet ultimatum devait être élargi sur toute la région du Nord Kivu où il y a des atrocités. Et il juge que la MONUSCO devait passer à l'action au lieu d'attendre si longtemps. Et comment vous réagissez à ce propos de la population?
Dire que le Bureau des droits de l'homme est en train de faire les dernières corrections à ce rapport. Il sera publié très prochainement. Donc, vous allez être informé sur la date de la publication. Colonel Bass.
Oui, merci pour votre question. Je dirais plutôt que nous avons pris bonne note des préoccupations et des réactions des populations civiles de la province du Nord Kivu. Suite à la création d'une zone de protection censée désarmer tous les détenteurs illégaux d'armes, aussi bien les détenteurs individuels que les détenteurs organisés en groupe. Effectivement, ces préoccupations, nous les avons bien comprises et nous avons pris bonne note parce qu'il est tout à fait normal que les populations puissent de manière très libre s'exprimer sur des mesures qui sont prises aussi bien par la force de la MONUSCO que par les FRDC et qui concernent directement leur vie de tous les jours. Eh bien, d'abord, il faut préciser que la création de ces zones s'est faite en parfaite collaboration et en parfaite coopération avec les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Et le but visé à travers la création de cette zone, c'est de renforcer les mesures de protection et les mesures de sécurité pour les populations civiles de la ville de Goma. Toutefois, je pense aussi qu'il faudra laisser la chose militaire aux spécialistes militaires. Parce que ceci ne joue en rien dans la quintessence du mandat que nous avons reçu, à savoir la résolution 2098, qui fait obligation à la force de la MONUSCO en le renforçant d'une unité additionnelle, lui demande de mettre à exécution le mandat qui lui a été confié, à savoir traquer et désarmer les groupes, neutraliser et désarmer les groupes qui pullulent à l'est de la République démocratique du Congo avec la brigade d'intervention. Donc, ce dispositif, d'abord, est une première étape. Une première étape dans toute la batterie de mesures qui vont être mises en chantier d'ici très bientôt. La deuxième chose qu'il faudra aussi préciser, c'est que cette initiative est progressive. Vous comprendrez très bien qu'il nous est très difficile de mettre sur la place publique, pour des raisons de sécurité opérationnelle, toutes les actions que la force de la MONUSCO dans son ensemble va mettre en œuvre pour protéger les populations civiles et remplir son mandat. Donc, nous appelons les populations de Goma vraiment au calme et à la compréhension, mais aussi de ne pas céder aux tentatives de manipulation et leur dire que nous sommes engagés à leur côté et que nous avons reçu un mandat que nous allons remplir vaille que vaille.
Merci beaucoup. On prend une deuxième question. On peut rester ici à Kinshasa.
Merci, je venais vous dire ça pour la radio-télévision nationale congolaise. Souffrez qu'on revienne autour de l'ultimatum, mon colonel, c'est à vous que je m'adresse. Lorsqu'on lance l'ultimatum, sincèrement ou certainement, on doit attendre la réaction. Et un auteur africain dit, le tigre ne chante pas sa tigritude, mais le tigre saute, de peur que la proie ne s'éloigne de lui.
C'est Wole Soyinka.
C'est Wole Soyinka, heureusement vous me le complétez. Ma question c'est celle-ci, que reste-t-il du mystère ou du prestige qui entoure la force de la MONUSCO? Merci.
Je pense que notre prestige n'a été nullement entamé parce que je ne pense pas que nous ayons subi une défaite cuisante. Je voudrais plutôt vous retourner la question en vous disant, mais quelle aurait été votre réaction si la force de la MONUSCO ne se mettait pas tout de suite en action? Je pense qu'au cours de nos rencontres ici hebdomadaires, cette question a toujours été posée. Maintenant qu'une action, une initiative a été prise et que nous sommes dans la dynamique de remplir notre mission, quoique nous n'avons pas la totalité de nos effectifs et de nos matériels, parce que comme vous le savez, le bataillon Malawite est toujours dans le processus de déploiement. Des initiatives sont prises en parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises pour renforcer la sécurité. Alors, je ne comprends pas qu'on puisse nous reprocher de renforcer la sécurité et la protection des populations civiles. Certes, comme le stipule, ou selon les déclarations, en tout cas, des populations civiles ou la société civile du Nord Kivu, les gens voudraient qu'on aille tout de suite faire des choses. Mais sachez que toutes les planifications militaires sont conduites de manière rigoureuse. L'exécution des opérations qui sont ainsi planifiées se fait de manière tout aussi rigoureuse. Donc souffrez aussi que les militaires, ou en tout cas la force de la MONUSCO, dans la dynamique de planification et de conduite des opérations qu'elle est censée mener très bientôt, souffrez que cette force-là puisse mettre en place une méthodologie de travail et que les non-spécialistes de la chose militaire, je comprends bien leur impatience, voire leur frustration, mais doivent comprendre que nous sommes dans cette dynamique et nous sommes résolus, engagés à remplir cette mission-là.
Merci. On prend une troisième question avant d'aller à Goma. Monsieur.
Merci. Merci. Kaimbe pour RTGA. Ma question est posée à M. Félix Bass. Elle est relative à l'ultimatum, même si vous ne voulez pas que l'on parle en termes d'ultimatum. En fait, à l'instant, cet ultimatum, beaucoup s'attendaient à un déluge de feu sur Goma après les 48 heures. Une semaine après, je crois qu'il est bien normal que l'on fasse un bilan. D'après mes sources, il est bien négatif. Je voudrais chercher à comprendre pourquoi ce bilan est négatif. C'est parce que dans les périmètres ciblés, il n'y a personne qui détient une arme. Bien, s'il n'y en a pas, vous pensez l'élargir? Au cas contraire, s'il y en a, qu'est-ce que vous attendez pour procéder au désarmement forcé? Parce que le Brésilien Carlos da Cruz l'a dit, qu'il sera procédé, bien sûr, au désarmement forcé. Et d'ailleurs, dans les coulisses, on apprend qu'il y aurait eu une certaine pression diplomatique exercée sur Mme Robinson de la part du président Museveni, selon quoi on ne peut pas attaquer et qu'on essaie de privilégier ce qui se passe à Kampala. Merci.
Je vous remercie. Je voudrais d'abord tout de suite dire que ce qui se passe dans les coulisses, je ne suis pas au courant. Si vous êtes au courant, vous pouvez partager avec nous. Mais ce que je voudrais dire, je reviens effectivement sur ce que vous appelez un ultimatum ou un délai qui a été accordé à tous ces groupes armés pour pouvoir faire reddition de leurs armes et entrer dans un processus de pacification que nous avons établi. D'abord, je voudrais corriger. Je voudrais corriger parce que dans votre propos, vous avez semblé dire qu'il n'y a pas eu de résultat. Je vous ai dit qu'il fallait voir cette initiative dans une approche globale, dans une synergie avec les forces de défense et de sécurité. Alors, je corrige parce que, effectivement, cette zone englobe tout Goma jusqu'au sud de Kibati, mais va jusqu'à Sake. Je corrige parce que les forces de défense et de sécurité congolaises, en appui, la MONUSCO en appui à ces forces-là, ont procédé à un bouclage dans la région de Sake. Et sachez que 24 individus, 24 arbres ont été récupérés et 22 individus appréhendés. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas de zone, il n'y a pas d'armes dans cette zone-là. Parce que comme vous le savez, il y a une circulation extrêmement forte d'armes, d'armes à feu dans la province du Nord Kivu. Ça c'est un. Maintenant, concernant le général Dos Santos Cruz, je ne pense pas qu'il y ait eu une forme de rétropédalage. Le général Dos Santos Cruz a fait son annonce à partir de Goma et il a été bien clair à ce sujet. Il a annoncé la création d'une zone de protection. Il a bien précisé que c'était une première étape dans un processus global, mais mieux, il a même dit que c'était en quelque sorte une première initiative pour permettre aux gens de rendre les armes. Mais effectivement, notre mandat à la 2098 nous autorise à surveiller l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Et à ce sujet, nous avons des règles d'engagement qui sont mises en œuvre. Les activités ont commencé dans cette zone-là. Des patrouilles, des contrôles bien précis sont menés par la force de la MONUSCO en coopération avec les forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est une première étape. Je pense que c'est une initiative qui est très bonne. Et bien maintenant, on verra de manière progressive comment aller atteindre les autres objectifs qui nous sont assignés.
Merci. On part maintenant à Goma pour une série de 2-3 questions. Goma.
Merci Goma. On va donner la parole à Papi Okito.
Oui, bonjour. Moi, c'est Monsieur Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse au colonel Félix Basse. Après le faux ultimatum que la MONUSCO a lancé et qui a raté et a provoqué des soulèvements dans la ville de Goma, l'un des bourses autorisées de la MONUSCO a dit que cette structure ne travaille pas pour la société civile. Pouvez-vous nous donner la quintessence de cette déclaration? Merci.
Voulez-vous, s'il vous plaît, répéter cette déclaration?
La déclaration, c'est-à-dire l'un des bourses autorisées, l'une plutôt de l'autorité, de la bourse autorisée de la MONUSCO, a dit que la société civile, la MONUSCO ne travaille pas pour la société civile. Pouvez-vous nous donner maintenant la quintessence de cette déclaration?
Est-ce que je peux demander à Axel, tu veux répondre à cette question?
Oui, je crois que je vais essayer de répondre. J'ai l'impression que c'est moi qui suis visé par cette question, en fait. Je n'ai pas dit que la MONUSCO ne travaillait pas pour la société civile. J'ai dit, puisque la société civile, à l'époque, avait sorti un communiqué un peu difficile, à notre égard, j'avais dit clairement que les seuls qui pouvaient demander à la MONUSCO de quitter le Nord Kivu, c'était soit le gouvernement congolais, soit le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça ce que j'ai dit. Alors, cela dit, je pense qu'il y a eu quelques malentendus pour mettre cette déclaration dans son contexte. Il y a eu peut-être quelques malentendus entre la société civile ou d'autres organisations du Nord Kivu et nous-mêmes. Donc, depuis vendredi, nous avons eu un échange très intensif avec la société civile elle-même. Nous avons eu, enfin, l'organisation qui s'appelle la société civile, nous avons eu 5 rencontres avec eux depuis vendredi. Nous avons aussi rencontré la société civile du Nord Kivu. Bien sûr, nous avons été en liaison avec toutes les autorités provinciales, le gouverneur, la PNC, les FARDC, etc. Nous avons rencontré un certain nombre de députés, d'anciens gouverneurs. Et je pense que les malentendus ont été levés. Peut-être pas à 100%, parce que c'est normal, on ne peut jamais être d'accord à 100% avec tout le monde. Mais enfin, je pense que les malentendus ont été levés et la société civile du Nord Kivu ne peut pas participer en tant que tel à la conférence de presse, puisque c'est une conférence de presse des Nations Unies, mais dès que la conférence de presse des Nations Unies sera terminée, ils sont là, dehors, et ils pourront parler aux journalistes ici présents à Goma pour les rassurer sur l'évolution de la situation. Je ne veux pas parler à leur place au-delà de ça, mais je pense que désormais les malentendus sont levés. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Axel. Une deuxième question de Goma.
C'est Zouabanza Robert de la radio-télévision Graben. Ma question s'adresse au lieutenant-colonel Félix Sebas. Si la brigade n'a pas encore commencé ses opérations pour traquer les groupes négatifs, c'est parce qu'il n'est pas encore au complet. Et s'il n'est pas au complet, c'est parce qu'il y a de l'absence de quelques troupes malawites. Alors j'aimerais savoir pourquoi les Nations Unies ne font pas pression au gouvernement malawite pour qu'on accélère le déploiement de ces troupes, parce que pour un peu commencer les opérations et enfin mettre fin à la souffrance de la population.
Est-ce qu'il y a une question qui va dans ce sens? Donc, on laisse un collègue.
Bonjour, moi je suis journaliste du Pays Basque. Je voulais d'abord signaler un peu que c'est bien que si vous allez commencer maintenant à monitoriser le trafic illicite des armes, mais je me demande comment est-ce que vous commencez maintenant et pas dans les années du passé. Bon, mais ça c'était une appréciation, mais la question c'était celui-ci, non? Parce que ce que j'ai compris du Force Commander, Dos Santos Cruz, c'est que vraiment la MONUSCO qui va prendre un peu le contrôle de cette brigade d'intervention, c'est celle qui peut-être est normale. De toute façon, la MONUSCO va toujours avoir un peu la règle de prioriser le dialogue de Kampala. Alors je vois qu'il y a ici une espèce de contradiction. D'un côté on dit qu'on va désarmer le groupe rebelle négatif, d'autre côté on dit qu'on va prioriser le dialogue de Kampala quand on a passé 8 mois de dialogue pour, avec un résultat de zéro. C'est la question. A ver si c'est vrai que vous êtes en train de prioriser le dialogue.
Merci Goma. Je vais peut-être répondre par la deuxième question à mon camarade basque. Effectivement, nous avons une mission de monitoring de l'embargo sur les armes, parce que n'oubliez pas, parce que vous avez, votre question est la suivante, pourquoi ça ne se faisait pas avant. Mais prenez en considération la date à laquelle la résolution 2098 a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité, c'était bien au mois de mars. Donc nous avons commencé avec ces troupes additionnelles à monitorer les armes, parce que ça rentre dans le cadre de notre mandat. Mais aussi, je vais vous dire une chose. L'approche de la solution, l'approche à la résolution de la crise en RDC ne peut pas être qu'une approche militaire. L'approche est holistique, elle inclut beaucoup d'autres aspects qui peuvent être politiques, parce que d'abord la solution est politique, qui peut inclure aussi d'autres aspects diplomatiques, mais aussi qui n'exclut pas l'option militaire. Parce que la situation qu'on voit sur le terrain et qui a commandé la création de cette brigade d'intervention, c'est justement la prolifération des groupes armés dans la province du Nord Kivu. Mais ne me dites pas qu'on ne peut pas neutraliser les groupes armés et en même temps discuter. Même dans les conflits les plus ouverts, les gens se battent et discutent en même temps et arrivent à des solutions. Donc, je pense que cette approche n'est pas contradictoire. Il faut plutôt la percevoir dans une approche holistique, parce que tout est mis en œuvre pour ramener la paix à l'est de la RDC. Il y a une autre question. Maintenant, pour la première question relative au retard observé dans le déploiement des troupes malawites, nous vous avions dit ici que les troupes malawites venaient d'abord de la République de Côte d'Ivoire, où ils étaient déployés, et que le processus de déploiement du matériel logistique, qui est extrêmement lourd, est déjà entamé, et nous avons un élément précurseur du bataillon malawite qui est déjà là, environ une centaine de bonhommes. Le processus se poursuit. Maintenant, les contacts qui doivent être pris avec le Malawi, je ne pense pas que ce soit des contacts qui vont être initiée à partir de la MONUSCO. Ça, c'est une prérogative de New York qui discute avec les États contributeurs. Mais il faut saluer déjà qu'il y ait des pays comme le Malawi, comme la Tanzanie, comme l'Afrique du Sud, qui aient bien accepté de mettre à la disposition de la force leurs hommes pour aller mener des opérations offensives qui, comme vous le savez, peut bien provoquer des dégâts, des décès. Mais les gens sont prêts à aller donner de leur vie pour contribuer à ramener la paix en RDC. Je pense que c'est ça l'essentiel.
On prend une dernière question de Thomas avant de revenir à Kinshasa.
Radio Okapi, s'il vous plaît. Steve Amagourou de Radio Okapi. J'aborde le volet humanitaire avec le HCR, donc ma question s'adresse au HCR. Un groupe d'habitants estimé à environ 300 ménages avait fui les derniers affrontements de Kibati entre les M23 et les FARDC. Ces populations ou ces habitants ont traversé la frontière et sont allés se réfugier au Rwanda. Et il y a plus d'une semaine, ces habitants ont été empêchés de regagner la RDC. Et ils ont été amenés de force dans les camps des réfugiés de Kamira au Rwanda. Alors, je veux savoir quelles sont les informations dont dispose le HCR à ce sujet et que fait-il pour faciliter le retour de ces réfugiés dans leur pays, la RDC. Merci.
Alors, malheureusement, je n'ai pas d'informations sur cette situation. Mais je vais demander à ma collègue Céline qui est en fait, je pense qu'il y a à Goma d'ailleurs en ce moment. Si elle peut avoir un peu plus d'informations.
J'ai une question aussi.
Yvon va entrer en contact avec son collègue à Goma. Il vous contactera personnellement pour vous donner une réponse à cette question. On revient maintenant à Kinshasa. On va du côté gauche, à ma gauche. On commence ici. À ma gauche.
Carlos Mopili pour la CSF. J'avais une question à M. Alex à Goma. Et qui est à Goma?
Question à M. Axel,
Axel oui.
Il y a une question de Kinshasa pour toi.
Ok. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez que la République démocratique du Congo n'appartient pas au gouvernement congolais, mais plutôt au peuple congolais qui est le propriétaire souverain? Et vous savez qu'il y a le principe d'autodétermination reconnu en droit international public et consacré à l'article 19 et 20 de la Charte des droits de l'homme de l'Union africaine. Ma deuxième question, c'est au colonel Bass. Mon colonel, vous avez bientôt dit que vous venez de dire qu'on laisse la question militaire aux spécialistes militaires. Mais la société civile, dans la société civile, il y a des officiers, ex-officiers militaires bien formés dans le monde entier. Et aussi, si on mène une analyse scientifique comparative, nous avons vu l'ONU intervenir au temps de Monique et de ONIC en 1962 au Katanga, là où la crise n'était pas si grave qu'aujourd'hui. Et on sait combien de temps le Conseil de sécurité s'est décidé sous le chapitre 7. Nous avons vu la SADC à août 1998, comment elle s'est déployée et à combien de temps. Et nous voyons aussi en Libye comment le Conseil de sécurité est allé vite. Et nous avons vu aussi l'intervention française au Mali. Votre commentaire, je vous remercie.
D'abord, je pense qu'il n'y a pas de question. Il faut le dire. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un amalgame complet que vous faites dans ce cadre-là. Parce que je crois qu'il faut distinguer d'abord les contextes. Il faut distinguer les époques, il faut prendre en compte les nouvelles réalités. Parce que quand vous faites allusion à l'ONUC, à l'époque le M23 n'existait pas. Donc je pense que il faudra relativiser vos condamnations, ou en tout cas vos accusations, parce que ni le contexte, ni l'environnement, ni les réalités actuelles ne peuvent être confondus à une situation de 1960. Il n'y a pas eu de question de votre part, mais je voulais juste préciser ça, que la MONUSCO aujourd'hui a un nouveau mandat, a évolué dans un autre contexte avec d'autres réalités qu'il faut prendre en compte et qu'il faut inclure pour trouver une paix durable.
La première question s'était adressée à Axel sur la société civile.
Oui. Donc, moi, je ne veux pas rentrer ni dans un débat de droit constitutionnel, ni dans une polémique. Nous, les Nations Unies, nous reconnaissons les États. Les États sont représentés par des gouvernements. Donc, les gouvernements, en tout cas en ce qui concerne le Congo, sont élus. Nous avons par ailleurs le plus grand respect pour la société civile, qui est une organisation importante, en particulier ici au Nord Kivu. Et comme je le disais, nous avons énormément discuté avec elle, mais nous discutons aussi avec beaucoup d'autres composantes de la société ici. Et n'oublions pas non plus que la société civile est elle-même une organisation qui représente beaucoup d'autres organisations non gouvernementales qui peuvent avoir des tas d'opinions différentes sur beaucoup de sujets. Et on l'a vu d'ailleurs justement précisément sur le rôle de la MONUSCO. Donc, moi je ne peux que maintenir ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes ici à l'invitation du gouvernement congolais, dès le départ, et les seuls qui puissent nous dire de partir, c'est soit le gouvernement, soit naturellement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous méprisons quelque organisation que ce soit. Au contraire, nous faisons énormément d'efforts pour discuter avec toutes les organisations représentatives de la société du Nord Kivu. Merci.
Merci. On prend une troisième question ici à Kinshasa. On a une femme ici qui, depuis le début, est en train de faire une question.
Élisée Odia, Congo Web Télévision. Nous apprenions hier des autorités de la RGC qu'il y aura un bataillon de forces armées rwandaises qui auraient traversé la frontière, une information confirmée par le porte-parole des FRDC. Alors, au niveau de la MONUSCO, est-ce que vous pourriez-vous confirmer ou affirmer cette information?
Malheureusement, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer. Nous avons appris ça dans les journaux ce matin et je n'ai pas entendu de déclaration de la part des autorités, des forces armées congolaises là-dessus. Je suis désolé.
On prend une dernière question ici à Kinshasa. Là-bas.
Je m'appelle Honoré Mbenga. Je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Ma question est destinée au colonel Félix Bass. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a déclaré la semaine dernière au sommet des chefs d'État de Grand Lac à Nairobi au Kenya que la MONUSCO ait raison d'avoir suspendu son ultimatum lancé contre les groupes armés dans le Nord Kivu, en l'occurrence le M23. Pourquoi? Parce que cela attiserait le feu. Je voudrais savoir, mon colonel, est-ce que vous ne voyez pas que M23 affronterait la brigade spéciale d'intervention et en pareille circonstance, qu'adviendrait-il?
Répétez votre question, que le M23?
C'est-à-dire que M23 entend aussi affronter la brigade spéciale d'intervention. Comment expliquer cette témérité? D'où vient ce courage-là qu'a le M23 pour affronter la brigade d'intervention des Nations Unies, malgré les bons offices, quoi. Merci.
Bon, d'abord, vous me permettrez de ne pas commenter les propos d'un chef d'État. Ce n'est pas mon rôle. Mais je veux vous dire que la mise en place ou la création de la brigade d'intervention qui a eu le soutien de toute la communauté internationale dans son ensemble et dont certaines autres organisations, dont l'Union africaine, la SADC et la Conférence internationale des Grands Lacs, ont pu apporter leur garantie. Ça veut dire que ce sont les garants de l'accord cadre. Je pense que dans ce, à partir du moment où la résolution 2090 a été prise, il ne faudra pas que les gens se focalisent sur le M23. Le M23 occupe une petite partie de la province du Nord Kivu, qui est le territoire de Rutshuru. Et je pense que les dimensions géographiques de la province du Nord Kivu sont assez vastes, et c'est pour cela que ça constitue pour beaucoup de groupes armés, si vous voulez, un refuge sûr. La brigade d'intervention fait partie de la partie intégrante de la force de la MONUSCO, et c'est la force de la MONUSCO qui va engager des actions comme le recommande la résolution 2098. Maintenant, les propos propagandistes du M23, je pense que ça n'engage que le M23. Nous nous sommes concentrés avec les forces de défense et de sécurité congolaises à remplir notre mission, qui est de protéger les populations civiles et au besoin désarmer, neutraliser tous les groupes armés. Pas seulement le M23, il n'y a pas que le M23. Vous, le Tcheka qui est là-bas dans le Walikale, ou la PCLS qui est un peu dans le Masisi, mais tout ça, c'est les groupes armés, il y en a beaucoup, dont les ADF, etc. Donc nous focalisons pas seulement sur le M23. Du travail nous attend, et je pense que ce ne sont pas les propos propagandistes du M23 qui vont nous détourner, ou en tout cas détourner notre attention de l'essentiel.
On repart à Goma pour une autre série de questions. Goma.
Oui, on a Tuber.
Merci. Tuber, on dit de la RTNC. Ma question se dirige vers Félix Bax et vers Alex ou Axel. Félix Bax, le M23 a publié le 3 août dernier une déclaration du non-respect de l'accord de Kampala qui disait au FRDC d'avoir un seul bataillon à Goma, et que le M23 et le FRDC allaient surveiller l'aéroport, d'où son ultimatum de désarmer la ville de Goma. Quelle est votre réaction par rapport à cet ultimatum du M23 et que vous avez demandé dans votre ultimatum à tous les groupes armés qui sont dans la zone, dans le triangle de sécurité, de se désarmer? Une autre préoccupation pour toujours au colonel. À chaque fois que vous avez fait le bouclage, 24 armes ont été récupérées, mais à Goma, hier la nuit, la voiture de la RTNC a été victime de personnes en armes non autrement identifiées parce que la police n'y était pas, et vous avez une police de MONUSCO à Goma. Que fait-elle en appui à la police nationale congolaise? Pour Axel, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des informations correctes sur ce qui s'est passé en Nguenda hier entre les FDPIC et le M23?
Colonel. Oui, merci. Je commence par la deuxième question qui m'a été adressée, qui concerne une attaque qui a été perpétrée contre un véhicule de la RTNC. Je pense que c'est vrai que dans le cadre de notre mandat, nous menons des opérations de police. Certes, mais je pense que quand la force de la MONUSCO se déploie, elle se déploie dans un cadre bien précis. Mais dans Goma, il y a une police d'environ 3000 personnes qui assure, si vous voulez, qui opère dans la ville de Goma et qui fait des résultats. Il n'est pas exclu qu'il y ait des tentatives comme ça. Mais ça, c'est un véhicule de la RTNC. N'oubliez pas qu'à Goma, nous avons assisté à plusieurs attaques de véhicules transportant de l'argent de la TMB. Il y a eu ça, avec des gens qui se sont enfuis au Rwanda. Il y a eu ça. Donc je pense que ne confondons pas non plus les opérations de police qui sont bien menées par la police nationale congolaise. Il n'est pas exclu qu'il y ait des cas comme ça. Et les opérations que la brigade d'intervention et la force de la MONUSCO dans son ensemble vont conduire. Maintenant, je suis un peu perdu par rapport à votre première question, si vous pouvez me la rappeler.
Votre première question, c'était quoi?
Tu m'entends?
Ah oui, ok. Donc, vous parlez un peu du communiqué du M23 relatif justement à la mise en place de cette force. À l'époque, ce n'était pas la brigade d'intervention, c'était la force internationale neutre. Parce que n'oubliez pas qu'après la capture de Goma, les chefs d'État de la Conférence internationale des Grands Lacs se sont réunis et ont mis en place trois mécanismes. Le mécanisme conjoint de vérification qui est actuellement actif à Goma, il y avait l'équipe militaire d'évaluation qui devait faire la cartographie des groupes armés et ensuite déterminer avec précision leurs forces. Le troisième mécanisme qui a été mis en place, c'est le centre de fusion des renseignements. Et c'est dans le cadre de cette première approche qu'il avait été effectivement demandé, instruit la mise en place d'une force intervention neutre au niveau de l'aéroport, qui serait constituée d'un bataillon, d'une compagnie de la force internationale neutre, d'une compagnie du M23 et d'une compagnie des FRDC. Mais je suis vraiment surpris d'entendre le M23 se plaindre du non-respect de l'application des accords. Parce que ces mêmes accords ont demandé au M23 de repartir à 20 km. Et le M23 était pendant plus de 6 ou 8 mois à Mounigui, à 4 km de Goma. Alors, je vous demande, vous, en tant que journaliste, d'en tirer toutes les conclusions.
Le troisième volet de la question s'était adressé à Axel.
Oui. Donc, effectivement, nous constatons de plus en plus que dans la zone tenue par le M23, donc là, en l'occurrence, c'est sur la route de Bunagana, il y a de plus en plus d'affrontements entre différents groupes, très souvent liés à une concurrence pour la levée des impôts illégaux qu'ils imposent à la population. Et cela évidemment nous inquiète pour le bien-être de la population. C'est un signe aussi que le maintien de l'ordre dans la zone M23 se détériore. Et c'est évidemment un problème supplémentaire.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette conférence de presse. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous ont suivis en direct. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.